au Bercail, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Claval. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors, rafraîchir les bâtiments sans réchauffer la planète, voilà une belle promesse. On se remémore tous les fortes chaleurs de l'été dernier et vu la situation actuelle, ce n'est pas terminé. Alors, quand on me dit qu'il existe des solutions pour réduire sa consommation d'énergie et éviter toute utilisation de matériel réfrigérant, je dis oui. Maxime, tu es entrepreneur, tu as créé la société Enercool qui propose une peinture blanche réfléchissante ou réflective. Elle a la capacité de renvoyer donc les infrarouges et de permettre au bâtiment de réduire sa température globale entre 3 et 6 degrés en moyenne à l'intérieur l'été. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la low-tech dans le bâtiment avec un focus sur une technologie utile, durable et économique, la peinture blanche réflective. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Maxime ?
Tu as tout bon, c'est parfait.
C'est parfait. Eh ben c'est nickel. Alors je te propose d'enchaîner et de commencer cet épisode par notre petit jeu qu'on a un tout petit peu modifié pour nos auditeurs, c'est-à-dire que maintenant c'est une vérité et un mensonge sur la thématique du jour. Donc je t'écoute pour me les donner.
Ok, alors il y a deux éléments. On va partir dans le désert et dans un environnement où il fait très très chaud. Il y a deux solutions pour se rafraîchir dans le désert.
Ok.
Qui sont inspirées des Touaregs. Il y a s'habiller en bleu, mettre effectivement des habits bleus, voire indigo, comme le font les Touaregs. Et il y a boire des boissons chaudes qui permettent de se rafraîchir.
Ok.
Il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est fausse. Il y en a une qui permet de se rafraîchir, l'autre ne permet pas de se rafraîchir.
Lesquelles ? Alors, moi je dirais c'est les boissons chaudes qui permettent de se rafraîchir.
Exactement.
C'est assez contradictoire d'ailleurs quand on y pense, mais pour avoir été un peu dans des pays chauds, effectivement, j'ai voyagé, désolé Maxime, et du coup, je pense que cette réponse, ouais, voilà, c'est les boissons chaudes.
C'est exactement ça, ouais, ouais. Avec un phénomène assez marrant, parce qu'effectivement j'ai un peu travaillé le sujet, en fait, les boissons chaudes permettent de transpirer, en fait, et c'est le phénomène de transpiration qui fait qu'on se rafraîchit. Alors c'est pas vrai dans tous les cas, parce que si on transpire déjà et qu'on boit une boisson chaude, ben on va retranspirer plus et en fait le phénomène ne marche pas. Mais globalement, effectivement, boire des boissons chaudes quand il fait chaud, ça permet de transpirer et donc de se rafraîchir. Et pour le coup, les vêtements bleus, il y a des croyances là-dessus de se dire, tiens, les Touaregs et les habitants du désert s'habillent en bleu, donc le bleu, ça permet de baisser la température. En fait, c'est pas du tout ça, c'est d'autres sujets culturels qui font qu'ils s'habillent en bleu et en indigo, mais aucun lien avec la chaleur.
Ok, donc c'est une fausse croyance, effectivement. Mais ouais, la boisson chaude, c'est un bon plan. Alors c'est vrai que parfois, on se dit, oh, pas trop envie, mais ça peut être la bonne solution.
C'est ça.
Trop bien. Eh ben écoute, je te propose qu'on rentre un peu pour planter le décor. Est-ce que tu as quelques chiffres sur la situation actuelle du bâtiment en termes d'émissions de CO2 ? Est-ce que l'adaptation au changement climatique est un sujet récent ? Est-ce que comment ça se passe autour de tout ça pour aller vers les solutions dites low-tech ?
Ouais, exactement. En fait, effectivement, le bâtiment, c'est un des secteurs qui émet le plus de CO2 en France et dans le monde aussi, hein. Il y a des gros secteurs. Il y a le secteur des transports avec les voitures, avec l'avion et ainsi de suite. Il y a le secteur de l'agriculture avec tout ce qui est nourriture, viande et engrais et ainsi de suite. Et puis, il y a ce sujet, effectivement, du bâtiment qui représente aussi beaucoup d'émissions de CO2. Ça fait partie des trois gros postes, on va dire, sur ces sujets-là. Avec des sujets comme le chauffage, comme la consommation d'eau chaude sanitaire qui émettent beaucoup de CO2. Et puis, il y a un sujet qui, en fait, prend de plus en plus de place, qui est le sujet du froid et de la clim, parce que, on le sait tous, hein, il fait de plus en plus chaud. Mmh. Et donc, en fait, il y a des chiffres, hein, du GIEC qui montrent que, globalement, dans tous les scénarios, on a des réductions de la consommation et des émissions de chauffage, de chaude sanitaire, de beaucoup de choses. Et malheureusement, en fait, on voit que dans les scénarios même positif, on a la clim qui prend de plus en plus de place. Donc ça, c'est effectivement ces éléments-là. Donc ça, effectivement, ça on le sait tous maintenant. Je pense que c'est un sujet qui est connu, qu'il faut qu'on baisse nos émissions de CO2 globalement, que ce soit individuellement ou collectivement, en entreprise et ainsi de suite. Et puis, tu l'as dit, il y a un second sujet qui est un peu moins connu, qui commence à arriver, qui est l'adaptation au changement climatique, qui est un espèce de parallèle avec le fait de réduire ses émissions de CO2, qui est globalement de se dire, on est sur un changement climatique, et donc quoi qu'il arrive, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver, qu'on voit déjà, on l'a vu l'été dernier, on le voit en ce moment avec les sécheresses, et donc il faut s'adapter et trouver des solutions pour s'adapter à ce changement. C'est une vision un peu pessimiste de la chose, mais je crois réaliste, en fait, de se dire, quoi qu'on fasse, globalement, on a ces éléments, et donc il faut trouver des solutions pour s'adapter à des canicules, pour s'adapter à des sécheresses, pour s'adapter à des ouragans, à des pluies plus fortes, plus abondantes. Donc il faut aussi trouver des solutions pour tout ça et investir dans ces éléments-là, quoi.
Dans ces technologies aussi qui sont peut-être moins consommatrices. Et du coup, ça en vient au concept de low-tech. Est-ce que tu peux expliquer, vulgariser en fait ce concept de low-tech, parce que c'est un gros mot pour certains, peut-être certains ne connaissent pas. Qu'est-ce que la low-tech pour toi, du coup,
et pour nos éditeurs? La low-tech, c'est tout ce qui... Et finalement, c'est un peu les conseils de grands-parents, c'est un peu les choses un peu simples qu'on peut utiliser, comme le dit son nom, low-tech, peu de technologies, et qui sont en fait des solutions de bon sens, quoi, globalement, de pas aller dans de la techno-solutionnisme, enfin, des solutions à chaque fois très techniques, très complexes, qui demandent beaucoup de maintenance, qui demandent beaucoup d'investissement et qui, parfois, ne donnent pas les résultats escomptés. Alors qu'en fait, on a des solutions qui sont très simples, et qui permettent finalement d'avoir des gains tout aussi intéressants. Donc, faut, il y a les deux, effectivement. Il y a beaucoup de low-tech qui sont hyper intéressantes. Ça veut pas dire non plus, low-tech, que le truc n'est pas fonctionnel et ne fonctionne pas bien, hein. C'est-à-dire que une solution low-tech que tout le monde connaît, c'est un vélo, quoi. C'est-à-dire que c'est des choses très basiques et ça fonctionne très bien. Tout le monde a un vélo dans son garage et voilà. Donc en fait, globalement, c'est la low-tech, c'est vraiment des choses qui sont efficaces, qui fonctionnent simplement et qu'on peut utiliser un peu tous les jours et avec peu de maintenance, quoi. Le problème des technologies, c'est que très souvent ça tombe en panne, il faut remplacer un composant. Généralement, le composant, on n'arrive pas à le remplacer, donc il faut remplacer toute la machine, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment des choses qui sont simples, quoi.
Ok, donc c'est vraiment le côté accessible, peut-être, et qui est plus durable dans le temps, en fait, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je connais pas la définition officielle, mais en tout cas...
C'est intéressant. Mmh. Et du coup, comment ça peut s'incrémenter dans l'univers du bâtiment, dans l'univers de l'habitat ? Est-ce qu'il y a différentes solutions à apporter ? Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui existent ? Est-ce que tu peux en citer quelques-unes, peut-être, pour voir un petit peu, pour imager un peu... ces solutions pour l'habitat.
En fait, dans l'habitat, ce qu'il faut réussir à voir, c'est vraiment de se dire, il y a l'habitat et puis il y a la personne en elle-même. Tu vois, c'est déjà un point hyper important, c'est-à-dire que avant de travailler sur l'habitat et le bâtiment en lui-même, faut se questionner sur ton usage à toi et tes besoins à toi, soit pour le chauffage ou pour le froid. C'est vraiment de se dire. C'est un truc tout bête, hein. Mettre des pulls, mettre des grosses chaussettes ou des choses comme ça l'hiver quand il fait froid, c'est peut-être la meilleure low-tech qui existe. Avant de se dire, je vais changer toutes mes fenêtres, mettre des fenêtres plus isolantes, ainsi de suite, ce qui est une bonne chose. Mais en fait, il y a déjà un premier point qui est de se dire comment on réchauffe ou comment on refroidit son corps, en fait, avant de travailler sur l'ensemble du bâtiment. Après, le bâtiment en lui-même, il est assez low-tech, en fait, de base, parce que c'est des techniques ancestrales, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps. Enfin, tu vois, on parle d'isolation, on parle de chauffage. C'est quand même le chauffage, c'est rien d'autre que globalement, tu vois, une flamme qui chauffe de l'eau. Donc, quand on parle de chauffage au gaz, c'est pas le meilleur en termes de CO2, mais donc en fait, il y a des choses assez simples. Quand on parle de sujet de la clim et justement de comment on se rafraîchit, il y a tous les sujets de ventilation aussi qui sont hyper importants. Hein, de se dire, avant de mettre de la clim, effectivement. Avoir un flux d'air qui va rafraîchir, en fait, c'est hyper important. Donc, pensez à la ventilation. Donc, ça, c'est un peu tous les sujets qui permettent. Il faut pas non plus exclure, c'est-à-dire qu'il faut pas rentrer dans le low-tech à fond. Enfin, moi, c'est ma perception, c'est qu'il y a des solutions qui sont aussi intéressantes et qui sont technologiques. Par exemple, je pense aux pompes à chaleur, tu vois, pompes à chaleur, ça permet en fait de faire du chauffage avec un rendement qui est trois fois meilleur qu'une chaudière gaz. Donc c'est intéressant aussi. Donc en fait, il y a une sorte d'équilibre, à mon avis, à trouver. Se questionner déjà sur son usage à soi, de se dire, ok, comment je me chauffe, comment je me rafraîchis, et voir ça. Et ensuite, effectivement, trouver un peu les solutions, soit low-tech, soit effectivement de technologies qui fonctionnent bien. Comme je disais, pompe à chaleur, c'est quand même un truc qui fonctionne très bien et qui est hyper utile.
Est-ce que, ça me fait penser, hein, peut-être que ma question est pas bonne, mais est-ce que c'est plus ciblé, par exemple, dans l'habitat, hein, je reste dans le milieu de l'habitat, sur certaines technologies comme ce que tu disais, la ventilation, le chauffage, tout ce qui est autour de l'isolation, ou est-ce que ça peut aller plus loin dans l'habitat, sur, je sais pas, la construction en elle-même, sur...
Oui, ouais, bien sûr, ouais, ça c'est clair. Tout ce qui est matériaux biosourcés, matériaux locaux, aujourd'hui on sait faire, hein, des isolants en chanvre, il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont effectivement plus intéressantes que des isolants en laine de verre, des isolants qui effectivement à la conception sont pas forcément les plus sains. Donc ça, effectivement, il y a plein de choses à faire, effectivement, dans la construction en elle-même. Après, on peut rentrer dans un débat hyper long, dans le sens de se dire, en fait, construire, c'est pas génial, il vaut mieux rénover et travailler sur l'existant, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, construire des logements neufs, en sachant qu'il y a beaucoup de logements existants, c'est peut-être mieux travailler sur les logements existants. Après, c'est pas simple non plus, parce qu'il y a des villes qui se développent et qui ont des besoins aussi de construction. Enfin, tu vois, il y a tout un équilibre qui est pas simple, et en fait... sur le papier, ça a l'air magique, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais effectivement, sur les matériaux, il y a un effort qui est considérable à faire. Alors, honnêtement, je suis pas spécialisé sur le sujet, mais il y a beaucoup beaucoup de sujets sur les matériaux à travailler. Et puis effectivement, que ça soit en conception ou en rénovation, de bien réfléchir à se dire, ok, dans quelle pièce je vais vivre, à quel moment, entre les chambres, le salon, la cuisine, et ainsi de suite. L'éclairage aussi, l'éclairage naturel, tu vois, c'est des choses qui sont importantes. La ventilation, on l'a dit, c'est important à la fois pour rafraîchir le bâtiment, mais aussi pour la qualité de l'air. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses effectivement à prendre en compte.
L'exposition peut-être aussi, en fonction de la région où on se trouve, en fonction...
Ouais, c'est ça. Ouais, l'exposition solaire, effectivement, le soleil amène beaucoup de chaleur, ce qui est une bonne chose l'hiver, ce qui est une moins bonne chose l'été. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle les conceptions bioclimatiques, hein, effectivement, de se dire, bon bah, effectivement, avoir des baies vitrées au sud pour capter le plus de chaleur possible l'hiver, c'est une bonne chose. Et puis, effectivement, si on peut, si on a un bout de jardin ou si des choses, des arbres typiquement qui peuvent faire de l'ombre l'été pour éviter que cette chaleur elle rentre, c'est le cas idéal. Ou en tout cas, ou alors avoir des volets ou ce genre de choses, c'est des choses qui sont des très bonnes choses.
Ouais, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de mon environnement, comment je l'améliore, mais d'une manière peut-être plus... chercher, comme tu disais un peu dès le départ, je reprends cette expression, mais les remèdes de grand-mère, quoi. Avant d'aller chercher une technologie peut-être un peu plus polluante, un peu plus extrême, d'aller chercher peut-être des, bah, comme tu dis, des arbres, des volets, pour juste peut-être rapporter un peu d'ombre au moment donné, rafraîchir peut-être le bâtiment ou la pièce de 2 degrés, par exemple, quoi.
Mais c'est pas facile. La réalité, c'est que moi, j'ai retapé ma maison il y a 6 ans. Il y a plein de choses qu'on a mal fait, en fait. Mais enfin, mal fait, c'est... Je sais pas si c'est mal fait, mais en fait il y a plein de raisons qui font que c'est pas si simple, parce que typiquement moi j'ai travaillé avec mes beaux-parents pour toute la partie travaux. Eux, ils sont habitués à poser de la laine de verre, moi j'y connaissais rien, donc je dis bon bah ok, on va acheter de la laine de verre parce qu'ils sont habitués à mettre de la laine de verre, donc on a mis de la laine de verre parce que voilà, ils avaient l'habitude de faire ce genre de choses. Et puis en fait se projeter aussi, c'est-à-dire que tu es dans un logement, enfin tu achètes un logement. Savoir exactement comment tu vas vivre dans ton logement et comment il va se comporter alors que t'as pas encore vécu dedans, c'est pas non plus simple, en fait. Et c'est seulement, malheureusement, après que tu dis, waouh, cette pièce, en fait, elle est hyper chaude. J'aurais peut-être pas dû mettre un Velux, j'aurais peut-être pas dû mettre une grande baie vitrée à cet endroit-là. Donc, en fait, il y a plein d'éléments qui, en fait, sont aussi sur la vie, et c'est pas si facile, en fait. Sur le papier, on dit, ouais, ok, tu vas mettre des matériaux isolants, tu vas faire attention, ainsi de suite. Oui. Une fois que t'es sur le chantier et que t'appelles, tu dis, ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ça, c'est un peu plus compliqué.
Du coup, est-ce que tu préconises de camper un petit peu dans ta maison quand t'es en rénovation pour voir comment la maison vit?
Ça peut être une idée. Il y a plein de paramètres qui font que c'est pas facile. Mais oui, ça peut être ouais. Effectivement de vivre un peu dedans pour dire ok.
ça peut être une solution low tech. Ok, trop bien. J'aimerais qu'on fasse aussi un petit focus sur la solution que tu proposes toi pour bien comprendre en fait comment le produit fonctionne. Donc la peinture réflective, donc la peinture donc blanche de base. Du coup, c'est un produit bas carbone. Elle réfléchit. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le concept, voir en fait en quoi ça consiste, et puis après on essaiera de détailler un petit peu ce que ça peut apporter peut-être pour un particulier s'il souhaite rafraîchir son bâtiment ou sa maison.
Ouais, exactement. En fait, c'est marrant parce qu'on est sur un sujet low-tech sur lequel on a rajouté un peu de technologie. C'est assez intéressant. En fait, le concept en lui-même, il est vieux comme le monde. Hein. Effectivement, le blanc renvoie plus à la chaleur que le noir. Quand on parle de ça, on pense tout de suite, je sais pas, aux îles en Grèce ou
en Grèce, ouais.
Qui sont blanches. Enfin, les bâtiments qui sont blancs et effectivement qui badigeonnent à la chaux et qui permettent de renvoyer la chaleur. Donc ça, effectivement, c'est le concept de base que je crois que tout le monde comprend hein, globalement et qu'on applique maintenant sur des bâtiments en France, alors à la fois des logements et à la fois des bâtiments professionnels qui permettent globalement de renvoyer la chaleur, de renvoyer en fait les infrarouges. Et là où on rajoute un peu de technologie par rapport à une peinture blanche classique, entre guillemets, c'est que dans la peinture, il y a des éléments qui ont cette capacité à renvoyer un maximum les infrarouges et vraiment à maximiser finalement les économies d'énergie ou enfin, en tout cas éviter que la chaleur ne rentre. Et puis il y a aussi un sujet de durée de vie pour que la peinture tienne le plus longtemps possible. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement les maisons par exemple en Grèce qui sont peintes à la chaux, en fait chaque hiver ils sont obligés de remettre un coup dessus parce que dès qu'il pleut, et heureusement en Grèce il ne pleut pas beaucoup, la chaux a la tendance à disparaître, donc il faut remettre des produits dessus.
Ça supporte mal l'humidité.
Ouais, c'est ça. Là, le but, c'était d'avoir une durée de vie qui est importante, tout en gardant effectivement un équilibre et avoir ce sujet de se dire, il faut un produit qui soit sain pour l'environnement, qui soit écologique, en tout cas avec le moins d'émissions et d'impact possible. Donc, on a travaillé effectivement là-dessus pour faire en sorte d'avoir les bons produits et pas avoir de produits néfastes pour l'environnement dans notre peinture.
Et du coup, ça s'applique uniquement sur la toiture ou ça peut s'appliquer également sur, par exemple, les murs? Est-ce que ça changerait quelque chose si on peignait complètement sa maison en blanc comme en Grèce?
Ouais. Ou Alors, nous, ouais. Effectivement, on s'attaque plutôt à la toiture parce que, en fait, l'été, le soleil, il monte et donc, il est très vite au zénith. Donc, en fait, là où il y a le plus d'impact, ça reste sur la toiture. Mm-hmm. Sur les murs, en fait, là où la chaleur, elle rentre par les murs, c'est plutôt par les fenêtres. Donc, en fait, l'impact principal, enfin en tout cas les apports solaires, comme on les appelle, ils viennent principalement des fenêtres et de la toiture. Les murs, ça pourrait se faire en fait. Ça, on a quelques clients qui le font. C'est pas le gros du sujet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une peinture qui est blanche. Donc globalement, faut accepter aussi d'avoir des murs qui sont totalement blancs, ce qui est très souvent le cas. Hein, mais c'est un point important. Et j'ajoute un point parce qu'en fait, on a effectivement beaucoup de clients particuliers qui nous ont acheté nos peintures blanches et qui ont repeint donc des toits, mais qui ont plutôt des toits plats ou des extensions, tu sais, ils ont une maison, ouais. Qui ont fait une extension dans laquelle il fait très chaud.
Et puis là, on a des vérandas, des choses comme ça, peut-être.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et donc là, on a développé des peintures colorées qui ont des couleurs tuiles, ardoise et zinc, qui sont moins efficaces que le blanc, hein, naturellement, mais qui ont quand même ces éléments qui renvoient les infrarouges. Et parce que il y a le sujet de l'urbanisme en fait, repeindre ces tuiles en blanc, repeindre ces ardoises en blanc, c'est pas forcément le plus simple, ouais. D'un point de vue administratif. Et donc on a développé ces peintures là parce qu'il y a un gros besoin visiblement. Enfin, en tout cas, on a beaucoup de demandes de particuliers sur ce sujet.
Et justement, à quel degré par rapport à une peinture blanche, est-ce que vous savez le mesurer aujourd'hui la différence donc effectivement ce côté esthétique. Si moi demain je mets une peinture blanche et sinon je veux mon côté esthétique sur ma toiture et je mets une peinture colorée, à quel degré la différence au niveau des températures ça se mesure?
Ouais, les mesures qu'on a faites, on a fait pas mal de tests cet été là. On a en gros un gain de entre 1 et 3 degrés avec les peintures colorées. quand on est sur 3 à 6 degrés sur les peintures blanches. Donc globalement, il y a un ratio de 2. Tu vois, on est deux fois plus efficace avec la peinture blanche.
Okay.
Donc certains vont dire, ah ouais, gagner entre 1 et 3 degrés, pas génial. Il y en a d'autres qui vont dire, ah ouais, 1 et 3 degrés, c'est génial, c'est déjà beaucoup. Donc en fait, on a un peu tous les échos. Donc on va voir comment ça répond d'un point de vue, on va dire, marché, tu vois, de se dire, est-ce que les gens... Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent vers nous pour nous dire, il fait très chaud dans mon logement. Souvent, les gens, ils ont les chambres à l'étage.
Ouais.
Les enfants dorment mal ou les parents dorment mal. Enfin, il y a un sujet vraiment sur le sommeil et le fait que quand il fait très chaud, on dort très mal. Et donc, voilà, ta journée, elle est foutue parce que t'as très mal dormi. Donc, en fait, il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc, si on peut améliorer un peu les choses et éviter que les gens installent des clims, ça sera l'idéal, quoi.
Et est-ce que tu vois des différences aussi en fonction des régions ? Je sais pas, par exemple, j'habite dans le nord de la France où j'habite et qui fait parfois même très chaud l'été, je précise.
Ouais.
Et où j'habite dans le sud de la France, à l'opposé, est-ce que, entre guillemets, tu vois des disparités par rapport à ça, où il y a plus d'intérêt de le faire dans le sud de la France ou pas?
En fait, ça, c'est assez marrant parce que quand on a créé la boîte là, il y a 2 ans et demi, effectivement, on s'attendait à être vraiment beaucoup dans le sud.
Mm-hmm.
Et en fait, non. C'est équilibré globalement. Et la conclusion qu'on donne à ça, c'est que dans le sud, on a l'habitude d'avoir chaud et qu'il fasse chaud globalement. C'est pas nouveau, entre guillemets. Mmh. Alors que dans le nord, moi je viens de l'est de la France où il fait aussi très chaud l'été, mais je pense qu'il y a quand même un peu moins cette habitude entre guillemets de la chaleur. Et donc en fait, on a beaucoup de clients qui sont dans le nord et dans l'est de la France parce que globalement, en fait, je pense que les gens sont moins habitués à avoir chaud et donc
ils voient le côté pas normal en fait. C'est ça,
exactement. Ouais. On dit waouh, ok, là on a pris 3 canicules de suite, il se passe quelque chose. Donc, alors que dans le sud, je crois que historiquement, il fait chaud, on vit avec, et donc l'esprit et le corps est un peu plus adapté à ça, quoi.
Ok, c'est intéressant, c'est drôle de voir justement.
L'autre point aussi, c'est que dans le sud, on est aussi beaucoup plus équipé en clim. Les gens ont beaucoup plus de clim, donc il y a un peu moins ce besoin de rafraîchir là-dessus. Les gens viennent aussi vers nous sur des sujets d'économie d'énergie, quoi. Vraiment de se dire, ma facture, elle commence à peser lourd, je vais essayer de baisser un peu la facture de clim, quoi.
Et justement, en termes de coûts, du coup, au niveau des coûts, combien ça coûte de refaire environ une toiture pour une maison, on va dire, assez classique? Mmh. Et est-ce que c'est quoi après le gain, le retour sur investissement aussi qu'on peut avoir sur sa facture d'électricité? Est-ce que tu as quelques chiffres là-dessus?
Ouais, on a des éléments là-dessus. Alors sur l'installation en elle-même, la pose de la peinture sur une toiture d'une maison, on va dire, c'est très variable parce que globalement, ça va être entre 30 et ça peut monter à 60, 70 euros du mètre carré.
Mmh.
Les choses qui vont varier, c'est déjà, est-ce que tu le fais toi-même ou est-ce que tu fais appel à un professionnel? Donc déjà, forcément, il y a un coût qui change. Nous, on recommande fortement de le faire par un professionnel, plus pour des raisons de sécurité.
Parce que tu montes sur un toit quand même.
Donc, on veut pas que les gens aient des accidents, donc on veut que ce soit des professionnels qui montent sur le toit, qui soient sécurisés et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point. Donc le coût varie déjà en fonction de ça. Et puis justement, déjà la surface aussi va dépendre, et puis après la difficulté de monter sur la toiture, le fait qu'il faille nettoyer plus ou moins fortement la toiture, parce qu'il y a des toitures qui ont plein de mousse, qui ont plein de déchets sur la toiture, donc il faut la nettoyer. Mais globalement, les ratios, c'est entre 30 et 70 euros du mètre carré. Pour des gains, effectivement, de, comme on disait, sur les peintures colorées, entre 1 et 3 degrés, et puis sur les peintures blanches, entre 3 et 6. Et donc le temps de retour sur investissement, quand on consomme de la clim, il est assez facile à calculer. On est entre 4 et 5 ans, globalement, de temps de retour sur investissement, que ce soit pour les particuliers et les professionnels.
Okay.
Les particuliers, très souvent, ils ont pas de clim, donc le temps de retour sur investissement, il est plus difficile à mesurer. C'est plus finalement du confort, de se dire, OK, je baisse la température. Ils pourraient se calculer en se disant, du coup, les gens, ils vont pas acheter de clim, et donc ils vont pas consommer d'électricité, ainsi de suite. Donc on pourrait le voir comme ça. Je crois que les gens, au final, ils réfléchissent pas comme ça. Si on fait le calcul comme ça, une clim, ça coûte très cher, donc le temps de retour sur investissement, il serait ultra rapide, quoi. Ça serait très très rapide.
Et là, justement, en plus, avec ce qui se passe au niveau de la crise énergétique, où l'électricité a fait un bond au niveau des tarifs, ça serait encore plus flagrant, peut-être, aussi,
ouais, ouais.
au niveau...
Ça on le voit très clairement sur la partie professionnelle. On bosse beaucoup avec des entrepôts frigorifiques, avec des bureaux, et donc ça clairement, on a énormément de clients qui nous appellent pour nous dire, ok, j'ai ma facture qui a fait x3, il faut que je trouve des solutions pour faire des économies. Mmh. Ça se voit un peu moins chez les particuliers parce que le taux d'équipement en clim est pas encore si élevé que ça, mais effectivement on commence à voir des choses très importantes pour les professionnels, quoi. Ça c'est clair et net.
Ok. Je rebondis juste, tu disais que vous conseillez largement de faire appel à un professionnel pour poser la peinture. C'est quoi comme type de professionnel qui vient faire ce genre de pose? Est-ce que c'est un peintre tout simplement, c'est le peintre qui va venir repeindre nos murs, ou est-ce que c'est plus quelqu'un qui va monter sur les toits
Ouais. C'est plutôt des peintres. C'est des peintres. En fait, il faut savoir que il y a déjà un marché qui existe en fait de repeindre les toits. En fait, il y a souvent des ardoises. En fait, c'est des fausses ardoises, c'est des ardoises. J'ai plus le nom du matériau, mais enfin bref, qui sont pas de la vraie ardoise et qui en fait très rapidement, au bout de quelques années, la couleur en fait disparaît de l'ardoise. Donc elle se lessive, elle se délave un peu, donc c'est plus joli. Donc il y a souvent des maisons qui se retrouvent avec une toiture qui est plus très belle. Et donc, en fait, il y a des peintres qui viennent repeindre en fait ces ardoises avec des peintures classiques et qui font ça. Donc, on travaille avec des peintres qui ont déjà l'habitude effectivement de monter sur les toits et de repeindre les toitures. Donc, on bosse principalement avec des peintres, parfois des couvreurs, donc effectivement des métiers qui ont l'habitude de travailler en toiture. Mais c'est principalement les peintres. Donc, maintenant, on a un réseau un peu partout en France de peintres avec qui on travaille. Et donc, quand les gens viennent sur notre site, on les met en relation avec les peintres avec qui on a l'habitude de travailler.
Ok. Et du coup, tu me parlais aussi qu'il y avait une sorte de durée de vie à la peinture. Mmh. Il faut réitérer la pose tous les combien de temps? Comment ça s'entretient?
Ce qu'on conseille, alors sur les toitures en pente, justement avec de l'ardoise, de la tuile ou même du zinc. Le fait qu'il y ait une pente, il y a l'eau qui s'écoule et donc en fait toutes les petites poussières et ces éléments en fait sont retirés naturellement par la pluie. Donc en termes d'entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on conseille, c'est au bout de 10 ans de remettre une couche de peinture. Ça, c'est les tests qu'on a fait en laboratoire et un peu les retours que les équipes nous font globalement, qui ont de l'expérience là-dessus, nous dire au bout de 10 ans, faut peut-être prévoir une couche. Ça peut durer beaucoup plus longtemps en fait. Nous, voilà. En prévision, on va dire, on se dit, ok, prévoyez au bout de 10 ans de remettre une couche de peinture, parce qu'il peut y avoir des petites zones qui vont un peu se délaver sur les choses, mais sinon, on est globalement sur une durée de vie de 10 ans, voire beaucoup plus si ça se passe bien, quoi.
Ok, super clair. Sur le plan légal, quand même, parce qu'il faut en parler un petit peu.
Ouais.
Est-ce qu'il faut faire des demandes à la mairie? Est-ce qu'il y a, par rapport à l'urbanisme, on en a un tout petit peu évoqué juste avant, au niveau de l'esthétique, donc il y a l'aspect personnel de ce qu'on a envie de voir sur notre maison, mais il y a aussi sur le plan urbanisme, je sais plus.
Ouais.
Est-ce qu'il faut faire des demandes
Ouais, exactement. En fait, la loi, ce qu'elle dit, dès que tu fais un changement de coloris de ta façade, il faut faire une demande, ce qu'on appelle une demande préalable. Donc c'est un document à remplir auprès de ta mairie et auprès des services de l'urbanisme.
Okay.
Donc ça concerne toute ta maison, c'est-à-dire les murs, les volets, la toiture. Si tu changes de coloris, même les volets, normalement il faut faire une demande. Enfin, c'est même pas normalement, il faut faire une demande. Si tu changes pas de coloris, en revanche, t'es pas obligé de faire une demande. Donc si effectivement tu veux changer ta toiture d'une couleur à une autre, il faut faire la demande. Et donc nous, effectivement, quand on passe du noir au blanc, il faut faire la demande. Quand on passe de tuile ou ardoise à blanc, il faut faire la demande. Mm-hmm. En revanche, si on utilise les peintures colorées, il n'y a pas besoin de faire la demande. Et aujourd'hui, alors, vu que c'est un sujet nouveau, on a beaucoup de clients qui ont fait des demandes justement qui souhaitent repeindre en blanc leurs tuiles ou leurs ardoises, ce qui peut paraître étrange, mais en fait, on a vu des photos de certains et franchement, ça rend pas trop mal. On a beaucoup de refus. Ça, ce qu'on sait, c'est qu'on a pas mal de retours finalement de clients qui nous disent, écoutez, j'ai fait un dossier, ça a été refusé.
Ils sont et encore alors, prêts à passer le cap.
Ouais, c'est assez connu, hein, les services d'urbanisme, c'est quand même Bâtiment de France, ainsi de suite. C'est assez, je sais pas si on peut dire ancien, mais en tout cas, ils souhaitent conserver effectivement des choses très 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 strictes et très très réglementées. Donc voilà, nous on a notre devoir de conseil de dire à nos clients voilà ce qu'il faut faire. Mmh. On sait que on a des clients un peu pirates qui nous disent je m'en fous, même si c'est refusé, je vais repeindre mes ardoises en blanc. Bon, voilà, ça nous fait marrer et en même temps on les comprend en fait. Quand les gens ils nous appellent et ils nous disent on a beaucoup trop chaud, on veut pas utiliser de clim et on cherche des solutions. Et qui font une demande en mairie et que la mairie leur dit ah ben non vous comprenez ça marche pas, alors que tout autour t'as des bâtiments d'architectes qui sont de toutes les couleurs, enfin t'as plein de trucs.
Oui, s'il y a
et qu'on dit attends,
pas forcément qu'une ligne, enfin
ouais c'est ça,
il y a pas d'endroit quoi.
Voilà, effectivement quand t'es dans un village classé où tout est uni et ainsi de suite, là tu pourrais dire bon ok ça se comprend, mais donc effectivement il y a un sujet avec l'urbanisme. Nous, on va pas se battre parce que c'est un travail de titan. Si jamais on voulait changer les choses là-dessus, on a été convoqué. Hein, nous, on est basé à Nantes. On a été convoqué par les services de l'urbanisme à Nantes il y a pas très longtemps, justement, pour nous dire attendez, on reçoit beaucoup de dossiers là. Enercool, ils voulaient un peu comprendre, quoi. Puis ils nous ont bien fait comprendre que globalement,
ça leur correspondait pas.
Ça leur correspondait pas. Exactement. Alors, il y a un sujet de loi. Alors ça, c'est un peu de lobby. C'est un peu de lobby qu'il faut faire. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui sont dans la politique qui nous écoutent, pourquoi pas. Il y a une loi qui existe, un décret, en fait, qui dit que, en gros, ça dit qu'il est interdit d'interdire certains éléments, en toiture, typiquement, et c'est interdit d'interdire les toits végétalisés, ou les panneaux photovoltaïques ou sur autre chose. Et donc, on aimerait avoir une ligne, interdiction d'interdire les toits blancs, sauf dans les zones classées historiques, ainsi de suite. Donc ça, on discute avec quelques personnes qui sont un peu dans ce monde-là et qui nous disent franchement, ça serait possible, quoi. Donc il y a peut-être effectivement un petit décret à changer et
qui changerait peut-être un peu la façon de voir les choses, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis simplifier un peu le processus pour des gens qui ont tout simplement trop chaud chez eux et malheureusement, on sait que ça va continuer, quoi. Donc, envie
d'avoir d'autres solutions que effectivement d'acheter une clim ou de déménager dans une région beaucoup plus froide.
C'est ça,
mais ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter par rapport à ce produit qu'on n'aurait pas parlé, qui pourrait être intéressant de savoir pour le particulier?
Ouais, alors s'il y a des gens, justement, on a parlé de panneaux photovoltaïques, s'il y a des gens qui ont des panneaux photovoltaïques chez eux, alors plutôt
oui, c'est vrai, est-ce que ça peut se mixer?
Ouais, exactement, c'est ultra complémentaire. En fait, le fait de le blanc va renvoyer les rayons du soleil et donc ça va apporter plus de lumière et plus d'énergie finalement aux panneaux solaires. Et donc il y a des études de bureau thermique qui montrent que globalement on améliore le rendement des panneaux solaires avec nos peintures. Donc ça c'est hyper intéressant en fait de se dire bah, globalement il est possible d'optimiser la production des panneaux.
T'as un ratio à peu près à donner pour voir à peu près l'amélioration du rendement ou...
Oui. Y a un bureau d'études qui s'appelle SOG Solar qui a fait des études là-dessus et en fait, ils montraient une augmentation de 8% du rendement. Donc, c'est pas négligeable.
C'est pas négligeable, ouais.
Ouais,
c'est sûr.
Et donc, ça peut être une sorte de solution complémentaire, on va dire, qui permet à la fois de rafraîchir son bâtiment avec nos peintures et en plus, si tu as des panneaux...
Pour l'électricité qui va derrière, quoi.
L'électricité, ouais, exactement.
C'est un beau complément, effectivement. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est chouette de le préciser. Et tout type de panneaux solaires, pas forcément en particulier. Ou...
Les panneaux, alors moi, ce dont je parle, c'est les panneaux photovoltaïques.
Ouais.
Donc, ils produisent de l'électricité. Alors après, sur les panneaux photovoltaïques, il y a des nouveaux panneaux qui existent qui s'appellent des panneaux bifaciaux où globalement, tu vas avoir du photovoltaïque sur les deux faces du panneau, vraiment pour optimiser finalement la surface disponible. Et donc là, c'est encore mieux, c'est-à-dire que bah, vu qu'il y a des membranes photovoltaïques qui sont mises à l'arrière du panneau, ça produit encore plus. C'est le même bureau d'études là qui fait ça, et donc là, ça augmente, je crois, à 22% la production solaire. C'est encore des panneaux qui se voient encore assez peu, mais d'après les experts, c'est des choses qui vont arriver de plus en plus. Donc,
à se tenir au courant et à se tenir informé, en tout cas, sur le sujet. Trop cool. Un dernier point, ou est-ce que tu souhaites qu'on passe à la phase action?
Non, je crois que c'est bon pour moi.
Ok, et ben alors, action. Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail? Nos éditeurs, ils ont un projet pour rafraîchir leur maison, justement. Qu'est-ce que tu leur conseilles? La première question à se poser, des acteurs, un premier conseil très concret, là tout de suite, quand on souhaite rafraîchir sa maison.
Ok. Ouais, pour ce que je disais un peu en intro au début, c'est effectivement d'abord se poser la question de comment on rafraîchit son corps, tu vois, vraiment la personne et pas finalement le bâtiment entier. Donc à mon avis, effectivement, les premières questions à se poser, c'est là-dessus, c'est de dire à quel moment j'ai chaud, pourquoi j'ai chaud et comment ça se passe. Moi, je donne un exemple tout bête, je fais beaucoup de vélo, je passe ma vie sur un vélo, enfin tous mes déplacements, je les fais en vélo. En plein été, soit j'essaye, avant d'arriver chez moi, d'arrêter de faire du vélo et de mettre à côté de mon vélo et de marcher, tu vois, ou alors d'aller vraiment pas vite, parce qu'en fait, tu fais un effort musculaire, et donc ton corps, il dégage de la chaleur, et quand tu rentres chez toi, s'il fait déjà chaud chez toi et que t'as chaud, c'est un enfer, donc là, effectivement, tu vas trouver toutes les solutions possibles pour te rafraîchir, donc c'est vraiment, être le plus lent possible, vraiment avoir un corps qui produit le moins de chaleur possible.
Ok.
Pareil au niveau de l'alimentation, de se dire il faut moins manger parce que effectivement quand tu manges t'es plus lourd et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses là-dessus. Il y a aussi l'habillement, hein, tout simplement, de se dire alors quand t'es chez toi ça va encore, tu peux effectivement te mettre en short, en t-shirt ou même en sous-vêtement vraiment s'il fait chaud, de se dire vraiment pour sortir.
Je me rafraîchis.
Parce qu'effectivement voilà, même un t-shirt, ça conserve un peu la chaleur. C'est moins vrai dans les entreprises. Moi, j'aimerais trop que n'importe qui puisse venir en short en entreprise. Tu vois, c'est vraiment ou même en tongs. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un qui vient en short et en tongs au boulot, tout le monde va se dire waouh, lui, il a pas envie de bosser. Alors qu'en fait, non, il a juste envie d'être confortable. Donc dans un logement, c'est un peu moins vrai parce que chacun fait ce qu'il veut et peut s'habiller comme il veut. Et surtout se déshabiller comme il veut. Donc ça, à la limite, c'est moins grave. Après, effectivement, avec le télétravail, tu vois, il y a des gens qui sont, qui sont souvent en visio et ainsi de suite, et qui vont devoir, s'habiller pour montrer qu'ils sont bien habillés pour le boulot. Donc ça, à mon avis, il y a, tu vois, un truc mental juste de dire, je pense que c'est à tous les patrons et patronnes de France de dire à leurs employés, vous inquiétez pas si vous êtes en t-shirt, ou en short au boulot, ou chez vous en télétravail, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Donc ça, c'est vraiment travailler sur le corps.
Ok.
Il y a la ventilation qui est hyper importante. On y pense la nuit, où effectivement, on se dit qu'il faut ouvrir les fenêtres pour vraiment... Mais en fait, ça a deux effets, en fait. La ventilation, ça a un effet de faire entrer de l'air froid de l'extérieur la nuit pour vraiment dégager l'air chaud et vraiment renouveler... l'air, et puis aussi rafraîchir les murs, hein, parce que les murs stockent beaucoup de chaleur. Et puis, il y a un effet aussi, quand t'as de l'air qui circule sur ton corps, ça te donne un effet aussi rafraîchissant qui est hyper important. Donc, ça serait, à mon avis, effectivement, les choses importantes. Et puis après, les choses un peu plus... peut-être pas parler de travaux, mais en tout cas, des choses un peu plus importantes, c'est effectivement faire en sorte que le soleil ne rentre pas dans la maison. Ça, c'est hyper important. L'été, le moindre rayon de soleil qui rentre, c'est de la chaleur. Donc, fermer les volets, mettre des brise-soleil, mettre des arbres, mettre des éléments à l'extérieur qui vont éviter la chaleur de rentrer, ça c'est aussi un truc
hyper important. Et quand on n'a pas envie de vivre dans le noir justement tout l'été, quand on travaille par exemple, comme ça, est-ce que t'as des solutions un peu plus, peut-être technologiques hein, aussi, hein, mais mis à part la clim évidemment, mais...
Ouais, il existe des choses. Alors, il y a tout ce qu'on appelle les brise-soleil, donc en fait, qui laisse, tu vois, ces espèces de lames orientables que tu mets soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Alors, c'est plus efficace quand c'est à l'extérieur, parce que quand c'est à l'intérieur, il y a quand même une partie de la chaleur qui rentre, qui permettent d'avoir quand même de la lumière, mais pas forcément le soleil qui rentre. Mais effectivement, ça assombrit quand même ton logement. Il existe aussi des films solaires, donc c'est des films transparents que tu peux coller à tes fenêtres.
Oui.
Et qui ont cette capacité de renvoyer les infrarouges. Donc, pareil, ça baisse un peu la luminosité, mais très peu, et ça évite effectivement une partie de la chaleur de rentrer. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ça fait partie des solutions. Et il y a aussi l'humidification aussi du logement, en fait, de mettre des ventilateurs et avec des serviettes humides ou ce genre de choses. Le fait d'augmenter l'humidité dans ton logement, ça capte une partie de la chaleur et puis ça améliore le confort aussi dans le bâtiment. Donc, c'est aussi des solutions Mais c'est pas simple et on souffre tous hein, quand il fait chaud, globalement, pendant les canicules. T'as beau avoir toutes les solutions du monde possible, globalement, quand il fait chaud et il faut aussi apprendre à vivre avec ça, quoi. Je crois que c'est aussi un des trucs, c'est juste de dire bon, bah, il fait chaud. Voilà.
Okay.
C'est pas agréable, on râle, on aime bien râler, mais c'est, ça fait partie des choses.
C'est sûr. Mais bon, c'est déjà chouette d'avoir quelques petits conseils un peu concrets pour au moins essayer de rafraîchir ou se sentir un peu plus.
Et prendre des douches. Ouais. Prendre des douches, hyper important, un truc tout bête, mais une petite douche froide de 30 secondes. Bon, bah, encore une fois, tu rafraîchis ton corps et ensuite, bah, pendant une demi-heure, une heure...
Ça améliore le confort, quoi.
T'es mieux, quoi.
Ouais, ok, ça. Trop bien. Merci beaucoup. J'ai une question un peu plus personnelle, du coup, maintenant. Dans ta vision, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton berca idéal, Maxime?
Foufou. C'est quoi mon berca idéal? C'est une bonne question. Je sais pas, d'un point de vue technique, je sais pas exactement, tu vois, mais... une maison où il y a de la vie, ou une maison où tu as des amis, ou une maison où tu vois, c'est agréable de vivre, où tu peux recevoir des gens, je pense que c'est quand même le plus important au-delà de tout ça. Mm-hmm. Juste, effectivement, de vivre des bons moments, que ce soit en famille ou ce que je disais avec des amis. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais petit, d'habiter dans une maison où c'était des maisons qui sont collées, tu vois, les maisons sont collées les unes aux autres.
Ou des non, pas forcément.
Alors, c'est même pas des lotissements, moi, je viens de Lorraine et en Lorraine, les villages, toutes les maisons sont collées, okay. quoi. Enfin, globalement, je pense qu'il y a une raison un peu énergétique à ça, tu vois, l'hiver, il fait très froid et donc le fait que les maisons soient collées, bah, tu perds moins d'énergie, bref. Et donc, j'ai eu la chance d'habiter dans une maison où mes parents avaient leurs meilleurs amis à gauche et à droite de maisons à coller. Enfin, ils avaient fait exprès, tu vois, d'acheter un truc comme ça. Et donc, j'ai vécu une enfance et une adolescence où il y avait toujours des amis et toujours du monde à la maison ou chez les voisins. On avait un jardin qui était partagé, on avait un jardin qui était le même pour les voisins. Donc un truc que tu vois, et donc moi j'ai un peu ça en tête tu vois, le berca idéal, c'est vraiment ce truc où je dis bon bah on peut se retrouver, on peut passer des bons moments et ainsi de suite. Si effectivement c'est un bâtiment qui consomme le moins d'énergie possible, qui est agréable et c'est génial, mais il faut pas non plus oublier que globalement il faut passer des bons moments avec les gens. Moi, c'est un peu mon idéal, tu vois, c'est un peu le truc que j'essaye de recréer maintenant à Nantes, là où on habite, voilà, d'avoir des bonnes relations avec les voisins, d'inviter du monde, de passer des bons moments, c'est quand même...
C'est un bercail de partage, quoi.
C'est ça, exactement.
Trop chouette. Est-ce que tu as des sources pour s'informer sur le sujet, alors que ce soit peut-être de la low-tech ou même de tout ce qui est sujet rafraîchissement de l'habitat? Je sais pas si tu as des newsletters, des sites, des personnes avec qui aller voir.
Je suis très mauvais là-dedans. Je suis incapable de retrouver des prénoms ou des noms de gens. Je suis genre de mec. Je vois plein de gens. On se connaît, mais je suis désolé, je me rappelle plus de ton prénom. Alors, te donner des sources de choses que je lis. Ah si, attends, ça. Si. Il y a une newsletter qui s'appelle Nourriture Terrestre.
Okay.
Qui est extraordinaire. Ça, clairement, parce que c'est très travaillé et c'est très sourcé. Alors attends, je suis en train de chercher en même temps parce que j'aimerais bien te donner le nom de la personne qui écrit ça parce que clairement...
Je le rajouterai dans les ressources, mais c'est toujours chouette.
Ouais, c'est ça, Clément Janot. Ça, effectivement, quand il publie ses newsletters, j'aime bien effectivement ce qu'il écrit. C'est très sourcé. Ça va pas forcément dans le sens des réflexions qu'on peut avoir un peu mainstream sur des sujets où tu vois, il dit, ah, attendez, là, on a dit des choses, mais en fait, quand on regarde dans le détail, les données, ainsi de suite, vraiment, tu sens qu'il creuse le sujet, tu vois, et je crois qu'il est bon, et je crois qu'il a raison. Donc vraiment, vraiment hyper intéressant. Donc, voilà, je suis très mauvais après pour citer d'autres éléments, mais voilà, Clément Janot, Nourriture Terrestre.
Ok, écoute, ce sera la ressource du podcast, pas de problème. Est-ce qu'on peut te contacter quelque part? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, voir où, par rapport à Enercool ou par rapport à d'autres sujets?
Ouais. Bah, Enercool, on a notre site qui est enercool.fr. Donc là, effectivement, on met nos coordonnées. Donc si vous voulez trouver mes coordonnées, elles sont normalement sur le site. Et puis après, sur LinkedIn, je suis assez présent sur LinkedIn. Donc j'aime bien effectivement poster un peu la vie de l'entreprise et un peu mes idées sur le sujet, donc assez actif là-dessus. Donc Maxime Claval sur LinkedIn, vous me trouverez. J'essaye de répondre aux messages. Et donc, donc au plaisir effectivement d'échanger et de faire avancer les choses là-dessus. Ouais.
Trop bien, merci beaucoup Maxime, c'était très très cool de parler de ce sujet-là avec toi. On sent que t'es passionné aussi par ce sujet et que ça te tient à cœur, donc bravo pour ça et en tout cas longue vie à Enercool, c'est une très belle boîte, donc félicitations pour tout ça.
Ouais, merci beaucoup Caroline.
Merci beaucoup, à très vite dans vos bercailles. Si je devais retenir trois choses de cet épisode, ce serait déjà la définition de la low-tech. Donc c'est un système simple et efficace, composé de peu de technologies et qui demande surtout peu de maintenance. Ensuite, nous avons fait un focus sur une solution low-tech pour rafraîchir nos bâtiments avec la peinture réflective. Donc celle-ci peut réduire de moins 3 à moins 6 degrés la température de nos bâtiments. C'est une solution pour réaliser des économies d'énergie sur sa facture d'électricité, principalement pour réduire la climatisation, donc en moyenne de moins 40%. C'est plus écologique et c'est aussi durable dans le temps, avec une durée de vie environ de 10 ans pour la toiture. Quelques conseils ont été donnés aussi pour se rafraîchir de manière plus low-tech. Donc s'habiller en conséquence et travailler sur le corps, donc avec des vêtements légers quand il fait chaud. La ventilation de la maison qui est importante aussi. Maîtriser le plus possible son environnement pour éviter de faire rentrer la chaleur en mettant des stores, des films solaires, des brise-soleil ou d'humidifier son logement. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir notre travail en nous laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux faire partie de la belle communauté d'Aubercaille, je t'invite directement à t'inscrire sur notre site www.aubercaille.co pour avoir toutes les dernières informations sur l'habitat éthique. À très vite dans Aubercaille.